11 mai 1973. Omar Blondin Diop est retrouvé mort dans sa cellule, sur l'île de Gorée. Selon les autorités sénégalaises, c'est un suicide.
Agence France-Presse, Bulletin d'Afrique, 13 mai 1973. L'administration pénitentiaire affirme qu'Omar Blondin Diop s'est donné la mort par pendaison dans sa cellule. L'étudiant avait été condamné à 3 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Cependant, la famille du défunt ne serait pas d'accord avec les conclusions de l'enquête officielle sur le décès de l'étudiant.
Ça me paraît totalement ridicule.
Alioune Sall Di Paloma, un ami d'Omar.
Il n'y a pas de doute, c'est un crime, mais un crime odieux. Omar n'était pas du genre à se suicider, il aimait beaucoup trop la vie. Ça ne fait pas de sens. Moi, ce que je retiens de lui, c'est une folle envie de vivre et un rejet de tout ce qui est entrave à la vie.
Oui, on n'a jamais pensé qu'il s'était suicidé.
Antoine Lefébure, un ami d'Omar.
Parce que ce n'était pas du tout sa mentalité et qu'on a tout de suite appris à quel point il avait subi des sévices en prison. Et voilà.
Ah mais je ne crois pas une seconde.
Antoine Gallimard, éditeur et ami d'Omar.
Non, c'est absurde. Non, j'ai jamais cru. Ils l'ont tabassé et puis ils ont maquillé ce tabassage en suicide. J'en ai l'intime conviction.
Que s'est-il passé ce 11 mai 1973 dans la cellule numéro 3 de la prison de l'île de Gorée où était emprisonné Omar? Nous avons reconstitué le fil de ces heures tragiques à l'aide d'archives et de témoins. Nous sommes Clémentine Métainier
et Florence Maurice.
Vous écoutez Omar Blondin Diop, plutôt la mort que l'esclavage.
Épisode 4, Omar est mort.
Notre enquête débute sur les lieux du drame. Une forteresse en arc de cercle bâtie par les Français au milieu du XIXe siècle, symbole de la traite négrière et lieu de mémoire du commerce d'esclaves noirs africains, devenu un musée aujourd'hui. Depuis la chaloupe qui nous mène sur cette île de Gorée, c'est le premier édifice que l'on aperçoit. Nous sommes en compagnie de l'un des petits frères d'Omar, le premier à se rendre sur les lieux ce jour-là.
Je m'appelle Cheikh Amala Diop. Je suis le sixième de la fratrie. La première chose qui nous a frappé, c'est que... Alors, on arrive à l'embarcadère et on trouve tout un détachement d'hommes en armes, des GMI. C'est le groupe mobile d'intervention de la police nationale qui embarque en même temps que nous.
Dans la chaloupe. Le jeune homme est troublé. Ce 11 mai est censé être un jour de retrouvailles. Omar vient de passer un mois à l'isolement. En théorie, il peut de nouveau recevoir des visites. Cher et Auguste, un autre de ses frères, viennent pour lui apporter du linge propre, des journaux et des cigarettes. À leur arrivée, la nouvelle est brutale.
Alors, dès que la chaloupe est arrivée, il y a le pilote de la chaloupe, qui était un de nos amis, et qui m'appelle en aparté, il me dit « Cher, Omar est mort cette nuit ». Ici, dans ma prison. On était sous le choc. On n'a pas réagi. Ensuite, on est arrivé ici, dans l'entrée, dans le hall, au poste de garde. On a déposé les bagages, mais ce qui nous a frappé, c'est que ils ont tout ouvert. Ils ont ouvert les paquets de cigarettes. Ils ont tout vérifié, quoi. Ils ont tout déballé. J'étais en vrac comme ça, c'était pas habituel. Alors, on m'a demandé à le voir. Ah, ils disent non, c'est pas possible, vous pouvez pas le voir. Depuis, on a vu que toutes les autorités étaient là, alignées avec la population, à regarder qu'est-ce qu'on allait faire. On a compris que donc, il se passe quelque chose.
Cher et Auguste trouvent alors un moyen d'alerter Mohamed, dit Lopi, un autre frère blondin également détenu à Gorée.
Dis bon, à la sortie, tu prends à droite, moi je prends à gauche, et on fait le tour en courant, et à chaque fenêtre, on crie. Omar est mort, Omar est mort, ils ont tué Omar. C'est ce qu'on a fait. On a crié, on est parti. Alors, les policiers sont venus nous donner des coups de crosse, nous taper pour qu'on arrête et tout. Et puis, on nous a ramenés à l'embarcadère. Et c'est au moment où nous étions sur le quai qu'on a vu une vedette de la Marine nationale militaire qui est venue avec mon père, et qui a déposé mon père. Et là, on a vu, le papa était complètement effondré et il était encadré par des soldats méconnaissables.
Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Ben, c'était la première fois que je le voyais pleurer. C'est là que vraiment j'ai compris que c'était vraiment la disparition de Marc qui pouvait le mettre dans cet état-là.
Le père a été prévenu par l'administration pénitentiaire dans la matinée. Une fois sur l'île, il est conduit à la cellule d'Omar. On lui présente le corps de son fils à même le sol, recouvert d'un drap blanc. On lui montre un autre drap entortillé et une canalisation qui aurait servi au suicide. Le père d'Omar est frappé par le désordre qui règne dans la pièce. Immédiatement, il reprend le bateau direction le ministère de l'Intérieur pour réclamer une autopsie. Ousmane, le second fils de la fratrie Blondin, le rejoint.
Et je trouve mon père, évidemment, il était effondré, mais il était en train d'attendre un papier. J'ai dit, c'est quoi, papa ? Il me dit, je veux un certificat d'autopsie. Je ne quitterai pas tant que je n'aurai pas le papier d'autopsie. Il était évidemment effondré, mais je l'ai senti extrêmement, disons, combatif. Dès le départ, il a dit ça, c'est too much. Par contre, l'histoire de l'autopsie, papa a été persuadé que c'était la manche pour lui. C'était ça qui allait donner la vraie version.
L'autopsie a lieu le lendemain matin, le samedi 12 mai. Le père s'est battu pour y assister car, souvenez-vous, il est médecin. Ousmane l'attend à la sortie et ce dernier est catégorique.
Papa y va, on dit bon, on attend, c'est long. Et puis bon, il ressort, il me dit bon, voilà, je l'ai vu, tout ce qu'il m'a montré là, c'est pas le corps d'un suicidé. Encore moins d'un pendu. Il me dit encore moins d'un pendu. Ce que moi j'ai vu comme trace, c'est pas possible qu'il soit suicidé. À mon avis, il est mort d'autre chose et ils vont le simuler en pendaison.
L'histoire s'accélère. Le père d'Omar retourne au ministère de l'Intérieur. Il pense récupérer le compte-rendu officiel de l'autopsie, mais les choses lui échappent.
Le ministre de l'Intérieur dit à papa de monter. Il est ressorti un peu bouleversé. Il a dit, docteur, je vous connais très bien. Vous savez bien qu'on a des relations par nos familles respectives. Vous êtes un très bon docteur. Mais dans l'état actuel de ce que j'ai comme information, je ne peux pas vous laisser faire l'enterrement public de votre fils. J'ai des renseignements à la minute sur ce qu'il y a comme manifestation et manifestant autour de chez vous. Si je vous laisse enterrer votre fils avec une manifestation, elle va me déborder. Je ne pourrai pas. On va vous demander de nous accompagner tout de suite au cimetière sans que vous alliez prendre la tête du cortège des manifestants. Voilà. C'est pas possible. Bon, il a contesté. Il a dit non, docteur, ce n'est pas contre vous, c'est pour la sécurité publique.
Mais en fait, sous-entendu, dans les propos de Jean Collin, on ne vous donne pas le corps.
On ne vous donne pas le corps. C'était clair.
Vous n'avez pas le corps.
Vous n'avez pas le corps.
Jean Collin, le ministre de l'Intérieur, est un homme puissant. Ancien administrateur colonial, il est aussi le neveu par alliance du président Senghor. Il est connu pour ses méthodes brutales et c'est lui qui organise l'enterrement d'Omar en urgence. Le père d'Omar est dépossédé du corps et de l'inhumation de son fils. Il a tout juste le temps d'envoyer Ousmane chercher le marabout de la famille pour qu'il puisse prier sur le corps du défunt. Lorsqu'ils arrivent au cimetière, le quartier est quadrillé par la police anti-émeute.
Et puis après, je vais chercher le marabout à la maison. C'était loin. C'était loin. Et quand j'arrive devant la maison, il y a une foule. C'est indescriptible.
Ça vous a marqué ?
Alors, je vois des visages que je connais, des camarades de lycée, des camarades de fac, mais il y avait des tas de gens que je ne connaissais pas. Et je m'arrête là. Et donc, je vois là-bas des gens qui sont des gens de la police. Armés et des policiers en civil.
Les policiers anti-émeutes de Jean Collin quadrillent le quartier et le cimetière.
Ils m'ont laissé rentrer avec les gens, mais quand nous sommes arrivés, c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà enseveli Omar et le marabout Youm n'a pas pu le faire.
C'est-à-dire que, sur le coup, j'ai dit à mon père, il l'enterre comme un chien. Mais c'était pas vrai, en fait. Ils enterraient leur propre peur. C'est ça. Et nous, ils nous ont privés de leur témoin.
Ils ont enterré leur propre peur, nous dit Ousmane, qui se souvient seulement du linceul recouvrant le visage d'Omar avant qu'il ne disparaisse sous le sable. Mais de quelle peur s'agit-il ? Celle de voir Dakar s'embraser et de perdre le contrôle sur la sécurité ? Ou peur que des témoins voient le corps du défunt ? Les policiers vont rester sur place pour garder la tombe pendant des mois. Ensuite, pendant 15 ans, ils y reviendront chaque 11 mai, date anniversaire de la mort d'Omar, pour empêcher tout rassemblement. La nouvelle de l'enterrement d'Omar, expéditif et en catimini, embrase Dakar.
On ne le savait pas, mais on attendait la dépouille. On attendait la remise de la dépouille. Et on n'a rien vu venir. C'est quand papa est rentré qu'on a su qu'en fait, c'était déjà fait. Et c'était ça aussi qui a révolté la population.
C'est-à-dire justement, qui a révolté de... Qu'est-ce qui se passe après, à ce moment-là ?
Ben c'est à ce moment-là, les émeutes ont commencé.
On leur dit, ça y est, on a été obligé de l'enterrer parce qu'ils n'ont pas voulu nous donner le corps. Alors là, ça a explosé, voilà. C'est inacceptable, c'est inacceptable, c'est inacceptable, etc. Donc papa se dit, à partir de maintenant, ça va être une vraie bagarre. Il m'a dit, les choses sérieuses commencent.
Le 15 mai, le rapport d'autopsie tombe. Il conclut au suicide.
Toutes les constatations faites à l'examen du cadavre attestent que la mort remonte aux premières heures du 11 mai et qu'elle est due à une pendaison.
Le rapport est publié dans la presse en violation du secret médical. Le père contre-attaque par un communiqué qu'il envoie à l'agence France Presse.
Mon fils a été assassiné. Mon fils Omar Blondin Diop est mort des suites de plusieurs traumatismes violents ayant entraîné une forte commotion cérébrale. Cette mort provoquée volontairement fut travestie en suicide.
Pendant ce temps-là, des proches, des anonymes, des militants affluent à la maison des Blondins. À l'université, les étudiants se soulèvent, des voitures sont incendiées, des jeunes descendent dans la rue, des tags hostiles surgissent sur les murs de Dakar. Jean Collin, le ministre de l'Intérieur, est donc chef des prisons. Son nom revient souvent. Les rumeurs qui circulent à Dakar le tiennent pour responsable. On soupçonne ses gardiens d'avoir battu Omar à mort.
Télégramme de l'ambassade de France, 14 mai 1973. Qu'Omar Blondin Diop, détenu irascible, soit mort de sa propre main, ou comme la rumeur s'en est aussitôt répandue, de mauvais traitements, sa disparition brutale ne pouvait, dans la conjoncture actuelle, manquer de relancer l'agitation.
Les manifestations durent plusieurs jours. La famille Blondin est étroitement surveillée.
Quand on arrive au 8e jour, hein, c'est le 8e jour, oui. Et ils nous ont fait un coup, ça, je n'ai pas oublié de vous raconter ça, c'est-à-dire qu'ils sont venus le matin nous chercher à la maison.
Qui ?
La police. Pour nous dire, aujourd'hui, il y a les manifestations. Si vous vous montrez, ça va faire augmenter la tension. On vous met à l'abri dans le commissariat du port de Dakar.
Toute la famille ?
Toute, y compris ma mère. Y compris notre mère. Alors ça, moi j'étais dedans, bien sûr, papa aussi. Ils nous ont amenés dans le commissariat de Bel Air, au port. Alors, non, c'était très bien traité, non, c'est pas un problème. Mais de 11h jusqu'au soir, 19h. On nous a dit maintenant rentrer chez vous. Mais il y avait des manifestations dans tout Dakar ce jour-là.
L'indignation dépasse les frontières du Sénégal. La semaine suivante, à Paris, un texte collectif est signé par des personnalités et intellectuels français, dont Gilles Deleuze, Pierre Vidal-Naquet, Claude Mauriac et une dizaine d'autres grands noms parmi la fine fleur de l'intelligentsia de l'époque.
Après la mort d'un étudiant, des personnalités françaises mettent en cause le gouvernement. La responsabilité du gouvernement sénégalais est entière. La thèse d'un assassinat, que celui-ci ait été perpétré de sang-froid ou qu'il résulte des conditions de détention, apparaît la seule plausible. Ils rendent responsable le ministre de l'Intérieur en personne, Collin, un Français.
5 jours plus tard, 310 normaliens protestent à leur tour. Ils adressent au président Senghor un télégramme encore plus virulent.
Bouleversé par la mort suspecte en prison, après une longue détention d'Omar Blondin Diop, nous protestons avec indignation contre la répression gouvernementale frappant des militants politiques, syndicalistes, universitaires, des étudiants et lycéens sénégalais.
Le 23 mai, le Canard Enchaîné publie une caricature de Senghor, une matraque à la main, avec ce titre « Personne ne croit au suicide ». Pour le président poète qui brigue le prix Nobel de littérature, le coup est rude. Ses accusations l'atteignent. En réaction, il durcit sa rhétorique et multiplie les initiatives pour accréditer la thèse du suicide. Florian Bobin, le biographe d'Omar Blondin Diop, décrit une véritable campagne de dénigrement.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rhétorique gouvernementale, très rapidement, en fait, c'est un vocabulaire extrêmement offensif vis-à-vis d'Omar, qui est présenté comme un drogué, sevré, donc en manque de ses substances, déprimé, qui se serait donné la mort parce qu'il aurait compris qu'il se faisait manipuler par les communistes français, par une extrême gauche impérialiste française. Il y a clairement un zèle très important, une fabrication de mensonges, de contre-vérités. Omar n'était pas drogué. Cette campagne médiatique de propagande ne résiste pas à l'épreuve des faits. Et c'est une position sur la défensive qui trahit bien une forme de culpabilité.
Coup pour coup, mot pour mot. La bataille se joue aussi dans les rues de Dakar. Des graffitis pro-gouvernementaux apparaissent sur les murs. La campagne de dénigrement culmine quelques semaines plus tard. La République du Sénégal publie un livre blanc qui rassemble une série de documents censés accréditer la thèse du suicide et étouffer la controverse. Il est largement diffusé, à Dakar comme en France. Envoyé dans les ambassades, il est même distribué à Grenoble, lors du congrès du Parti socialiste français. De son côté, le père d'Omar décide de saisir la justice. Le 6 juin, il dépose plainte contre X pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et non-assistance à personne en danger. Sa plainte s'appuie sur les constatations faites pendant l'autopsie et sur une conversation qu'il a avec son fils, Mohamed Blondin Diop, dit Lopi. Il était emprisonné à Gorée dans la cellule jouxtant celle d'Omar le jour de sa mort.
Lopi apprit à son père que le 21 avril vers 8h30, Omar, qui venait de terminer son quart d'heure de récréation, réclama un balai et du savon pour nettoyer la cellule pleine de poussière. N'ayant pas obtenu satisfaction, il refusa de rejoindre sa cellule. Mohamed Blondin Diop ajouta qu'il avait entendu un bruit de lutte entre Omar et ses gardiens. Il précisait que son frère lui dira plus tard avoir reçu un coup violent de matraque à la nuque, coup porté par Néré Faye, tandis que Dieye lui cognait la tête contre le mur. Les coups étaient si violents qu'Omar s'évanouit.
Lopi n'est plus là pour témoigner, mais Cher se souvient de leur conversation.
Notre frère était là, Lopi. Et pendant tout le reste de sa vie, il nous a martelé tout ce qui se passait ici. Que le gars, il le battait, il y avait des bagarres, que ça se terminait mal, que Omar était récalcitrant, il n'acceptait pas les extinctions de feu qui sont trop tôt, ou alors les demi-heures de cours qui sont écourtées. Hein. D'abord, c'est court, chacun à son tour, puis ensuite on écourte, etc. Ça créait des problèmes, et il n'hésitait pas à faire le coup de poing avec eux. Tout ça, le pi était là, il écoutait, il entendait, il était informé. Et quand Omar était fatigué, et qu'il souffrait, il entendait gémir à côté. Donc, si vous voulez, lui, en temps réel, il a suivi ce qui s'est passé, quoi. Donc, on a beaucoup d'éléments qui font qu'on a pas de doute, nous.
À la suite de la plainte, un juge d'instruction est nommé, le juge Moustapha Touré. Il va enquêter sur les lieux. Quelques années avant sa mort, ce juge a accepté de se confier au jeune réalisateur sénégalais J.D. Djigo pour son documentaire « Omar Blondin Diop, un révolté ». Écoutez, ce témoignage est précieux.
Donc, nous sommes transportés à Gorée. On a essayé de faire la reconstitution avec un détenu bien portant. Et deux jours. Il a été très difficile pour ce détenu-là de se hisser et pour se prendre. Très difficile. Et de surcroît, le jour. Alors si pour quelqu'un qui se serait pendu la nuit, il fallait également vérifier si dans les deux cellules, les deux frères pouvaient communiquer. Et la réalité est qu'ils pouvaient parfaitement se parler. On l'a vérifié et ceci a été établi. Donc ils pouvaient se parler, donc on peut donner crédit à ce que mon maître a dit, à savoir que Omar, avant sa mort, lui a dit qu'il a été battu à mort par les gardes. Pendant un ou deux jours, ils se parlaient, mais après, Omar a perdu la voix, donc il ne parlait plus. Il gémissait jusqu'au jour de sa mort. Je suis sorti de cette visite avec la conviction, certaine alors, que Omar ne s'est pas pendu volontairement, mais qu'il a été battu à mort. Et que la pendaison a été une simulation.
Et ce n'est pas tout. Le juge consulte aussi la main courante de la prison de Gorée. Il y apprend qu'Omar a perdu connaissance le 21 avril, qu'à partir du 23, il a refusé de s'alimenter et que son corps présentait des traces de blessures. Le juge interroge l'infirmier de l'île de Gorée qui les a constatées.
Les blessures étaient si graves qu'il a été obligé de demander au régisseur de le sortir de cellule et de le réintégrer dans sa chambre. Ce qui a été fait.
L'enquête avance. Le juge Touré a écarté la thèse du suicide et trouvé des preuves de sévices. Pour aller plus loin, il demande à voir les correspondances entre l'administration pénitentiaire et le ministère de l'Intérieur et inculpe deux des trois gardes pour coups et blessures. Il s'apprête à arrêter le troisième lorsqu'il est nommé président du tribunal du travail de Dakar. Sur le papier, c'est une promotion, mais le juge comprend qu'il s'agit d'une sanction. Il est écarté du dossier.
Vous savez, comme doyen des juges d'instruction, saisi par plainte avec caution de partie civile, on ne pouvait pas me dessaisir du dossier. Donc il fallait une affectation pour raison de service. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'était pas, pour vous dire que c'était pas une sanction, mais il fallait que je parte. Parce que certainement, les gens savaient que l'information pouvait déboucher sur autre chose. Donc il fallait que je parte. Bon, je suis parti.
L'enquête s'arrête. Le juge nommé en remplacement enterre le dossier. Qui voulait-on protéger? Qu'auraient dit les gardiens s'ils avaient été interrogés? Omar a-t-il été laissé à l'agonie dans sa cellule pendant plusieurs semaines? S'agit-il d'une bavure ou a-t-on donné ordre de le tabasser? Quelle est la responsabilité de Jean Collin? Le ministre ne sera jamais interrogé par la justice, car en 1975, le remplaçant du juge Touré clôt définitivement le dossier. Il se déclare incompétent.
L'affaire, c'est l'affaire RI 2873. RI, ça veut dire registre d'instruction. C'est comme ça que les affaires sont notées, n'est-ce pas? Et l'ordonnance est intitulée ordonnance d'incompétence.
Mais pour Maître Mbaye Dieng, l'avocat de la famille Blondin depuis 2013, son raisonnement frise l'absurde.
Puisque vous êtes saisi en tant que juge d'instruction de faits, on l'a saisi de faits graves. Desquels il ressort qu'une personne a été violentée et a été constatée une mort. Certains disent que c'est un suicide, mais l'enquête montre qu'il y a eu des violences, n'est-ce pas? Alors, lui se permet de dire que les violences sont légères, puisque aucun document médical disant que les blessures ont entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 21 jours. Mais quelqu'un qui est mort, comment il peut être empêché 21 jours? Il est mort. C'est plus grave que 21 jours. C'est ça le problème. C'est ça cette ordonnance. Alors donc, quand il a rendu cette ordonnance, il a fait le boulot, le sale boulot qu'on attendait de lui. Alors que son prédécesseur était déjà sur la bonne ligne pour entendre les fauteurs et tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposaient. Voilà. À l'époque, on ne voulait pas que la vérité jaillisse. On ne voulait pas. On a fait obstruction, n'est-ce pas, à la manifestation de la vérité. Mais on s'est écarté de la vérité. Exprès.
Au moment où tombe cette ordonnance, le père d'Omar est poursuivi pour propagation de fausses nouvelles. Il sera condamné à verser un franc symbolique parce qu'il a contesté publiquement la version officielle sur la mort de son fils. À ce jour, c'est la seule condamnation dans ce dossier. Mais la famille d'Omar n'a pas abandonné le combat pour la vérité.